RFI.
The next station is Bromley by Bow.
Mind the gap between the train and the platform.
Grand reportage.
C'est l'histoire d'un mariage tumultueux qui s'achève dans un divorce dont les termes restent à négocier. C'est donc le Brexit. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. L'histoire en retiendra ces années de malentendus, de crises et de lunes de miel renouvelées. Retour sur 70 ans de relations conflictuelles entre Londres et Bruxelles. Royaume-Uni, Europe, je t'aime moi non plus depuis si longtemps. Un grand reportage de Frédéric Lebel.
We must build a kind of United States of Europe.
On pourrait dire que tout commence par un malentendu. Si le discours de Winston Churchill de 1946 sur les États-Unis d'Europe est aussi célèbre, c'est peut-être parce qu'il est mal compris. Des États-Unis, oui, mais entre la France et l'Allemagne et sans le Royaume-Uni.
In the recreation of the European family must be a partnership.
L'Angleterre était bien une île, alors, bien différente de sa voisine républicaine d'en face. Andra, londonienne de toujours, se souvient.
On savait qu'on vivait sur une île et qu'on n'était pas des citoyens, mais des sujets. La reine était quelqu'un de vraiment important. Et le roi aussi était très important. À l'époque, quand je n'étais encore qu'une adolescente et qu'on allait au cinéma, à la fin de la séance, il diffusait l'hymne national. Il fallait se lever et rester debout, en silence.
En 1957, les Britanniques sont donc absents du traité de Rome. Ils préfèrent une organisation de libre-échange. Première candidature en 1961, première rebuffade française du général de Gaulle qui dit non et l'annonce lors d'une conférence de presse.
L'Angleterre, en effet, elle, est insulaire. Elle est maritime.
Non français, à nouveau, en 67, les Britanniques qui ont préféré commercer avec la Norvège et la Suisse se rendent compte qu'ils y perdent au change.
Diffère profondément de celle des continentaux.
Kevin O'Rourke, économiste.
L'économie anglaise n'allait pas bien. Ils se sont fait non seulement rattraper par les Allemands et les Français, ils se sont retrouvés devancés par les Allemands et les Français. Il y avait une manque de concurrence au sein de l'économie britannique.
C'est finalement en 1973 que Londres rejoint les 6 autres capitales. Un peu en retard, un peu décalé, ce n'est que le début.
Le problème pour les Britanniques, c'est que vu qu'ils n'ont pas participé à la création de la CEE dans les années 50, alors ils se retrouvaient en 73 dans la situation où il fallait devenir membre d'une communauté qui avait été définie par d'autres pays qui avaient leurs propres intérêts. Et bien sûr, pour la France en particulier, mais aussi pour les Italiens, pour les Néerlandais, l'agriculture était très importante. Le marché à conclure avec les Allemands, c'était bien sûr d'importer leurs marchandises industrielles, mais en contrepartie d'exporter des produits agricoles. Et il fallait remplacer les politiques agricoles nationales par une politique agricole commune. Et cela avait été mis en place avant l'entrée des Britanniques. D'ailleurs, il y a certains qui disent que de Gaulle ne voulait pas vraiment une entrée britannique dans l'Europe avant que toutes les procédures liées à cette PAC soient mises en place et surtout le financement.
Oui, j'ai une vague souvenir que ma mère disait « Oula, le beurre va être plus cher ».
Suzy n'était alors qu'une petite fille et les produits agricoles étaient déjà une préoccupation.
C'est intéressant parce que c'est ça qui fait que la différence en fait dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on achète à manger.
Et le beurre, c'était le beurre néo-zélandais et donc c'est du beurre néo-zélandais, on est passé au beurre normand.
Danois, je crois. On avait le beurre, avait surtout le bacon danois, j'ai un souvenir de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, la nourriture, quand même, on a eu une ouverture de ce qu'on pouvait manger. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, on mangeait quand même beaucoup de fish fingers, des riz blancs. Enfin, c'était une sorte de monotonie de nourriture où enfin, tout le monde se moquait de nous.
L'entrée de leur pays dans la communauté économique européenne n'est pas du goût de tous nos amis britanniques, c'est connu. Et le Premier ministre, Edward Heath, l'apprend chaque jour à ses dépens.
À peine la Grande-Bretagne a-t-elle signé pour rentrer dans le marché commun qu'un référendum est organisé en 1975 pour ou contre l'Europe. Il est demandé par les travaillistes, curieux pieds de nez de l'histoire. Ce sont eux, les eurosceptiques des années 70, inquiets des dérives libérales d'une Europe qui pourrait faire grimper les prix. Dans l'opposition, la chef de file des conservateurs, Margaret Thatcher, est alors une Européenne convaincue, nous raconte Jessica.
And the reason I remember it is because I remember Margaret Thatcher had this pullover with all the flags.
Je m'en souviens bien, il y avait Margaret Thatcher qui portait ce pullover avec tous les drapeaux européens parce qu'à l'époque elle était très pro-UE. Alors j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, fais-moi un pullover comme ça, et elle l'a fait. Mais à l'époque, mon père et ma mère ont voté contre notre appartenance à l'Europe. Il n'y avait que 9 pays, c'était une super idée. On ne parlait que de commerce. Mais ils ont fait des recherches et ils ont compris que l'Europe allait vouloir aller plus loin, se développer et devenir de plus en plus grande.
That the EU was going to push further and expand and become bigger and bigger and bigger.
Margaret Thatcher, en militante pro-européenne, on a sans doute oublié. Au pouvoir en 79, elle commence à bâtir sa légende de dame de fer. L'agriculture encore et toujours. Pour elle, le Royaume-Uni dépense trop pour la politique agricole commune.
We are not asking for a penny piece of community money for Britain.
Maggie n'oublie pas au sommet de Fontainebleau qu'elle a un sac à main et veut sa monnaie back.
Of our own money back.
1984, Quentin Peel est jeune journaliste au Financial Times. Il commence tout juste sa carrière de correspondant européen.
Le sommet de Fontainebleau où enfin Margaret Thatcher a eu son chèque. Et c'est un moment très important, aussi des années très importantes pour les Britanniques, parce que justement, je crois que quand même ça a donné aux Britanniques cette idée que l'Europe, c'est toujours un peu, c'est un conflit. Eux contre le reste.
No, no, no. Oh.
Et pourtant, l'Europe des années 80 est une Europe très britannique, Quentin Peel.
Quand j'étais à Bruxelles, justement de 84 à 88, c'était les années très importantes pour les Britanniques parce qu'on a inventé cette idée de marché unique, de marché interne, c'est-à-dire le marché commun, mais renforcé et beaucoup plus intégré. Et c'était une idée britannique. C'est le commissaire, c'était Lord Cofield, un type très, très britannique, mais quand même très insistant et très clair sur ses idées. Et il a insisté, il a fait un accord avec Jacques Delors pour créer ce marché unique. Et justement, c'est cette idée du marché unique qui est un problème maintenant pour les Britanniques qui sont contre l'Europe. Mais c'était notre idée.
Une Europe libérale sans barrières douanières qui viendrait faire obstacle au commerce, le rêve ressemble à la Grande-Bretagne des années Thatcher. Mais bien vite, Maggie débusque le loup dans la bergerie. Il s'appelle Bruxelles, il est fédéral. C'est le fameux discours de Bruges de 1988, l'attaque contre ce super État européen.
We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with a European superstate exercising a new dominance from Brussels.
La presse populaire a trouvé aussi son bouc émissaire, il s'appelle Jacques Delors.
I am disappointed by the amount of the turnout.
Le président de la Commission européenne déplace pourtant des montagnes pour convaincre les Britanniques.
What is the reason link with the internal functioning of our democracy.
Le jeune Steve n'avait que 15 ans, mais aujourd'hui ses griefs contre les bureaucrates de Bruxelles n'ont pas changé.
When I became aware that the only democratically elected part of the
J'ai fini par comprendre qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a qu'un seul organe élu démocratiquement, c'est le Parlement européen, mais il n'a quasiment aucun pouvoir législatif. Tandis que la Commission qui regroupe des fonctionnaires qui n'ont pas été élus, ce sont eux qui font et défont les lois, tout comme le Conseil des ministres. Mais leurs membres changent en fonction des gouvernements européens. Ce sont eux qui ont le pouvoir législatif. Et c'est un énorme, énorme problème en termes de démocratie.
That's a massive, massive problem with democracy there.
Dans les rangs conservateurs, l'Europe, ou plutôt la question de la monnaie européenne, est un facteur de division. La livre entre dans la salle d'attente, le système monétaire européen, pour en sortir 2 ans plus tard, après un fiasco. Les europhobes tiennent alors leur meilleur argument et n'oublieront pas l'économiste Kevin O'Rourke.
Cette fois-ci, on ne peut pas dire comme en 1973 que ça n'avait rien à voir avec l'Europe, car c'était bien à cause de leur adhésion à ce système monétaire qu'il y a eu ces problèmes-là. Ça finit avec le livre sterling qui sort du système monétaire en crise. C'est une grande défaite pour les europhiles qui se sont décrédibilisés. Et surtout, c'était une défaite pour eux, car après la sortie du livre sterling, qui alors diminue en valeur, il y a une reprise britannique et économique. Et donc, tout au long des années 90, les eurosceptiques ont pu dire aux europhiles, bah, vous voyez, nous, on avait raison et vous, vous aviez tort.
Good morning, it's 1 o'clock. This is Newswatch, I'm Alan King. John Major has put his job and perhaps his government on the line. If he wins, the Maastricht Treaty is ratified. If he loses, he'll call a general election.
Autant dire que lorsqu'on signe le traité de Maastricht en 1992, les Britanniques négocient leur fameux opt-out. Pas question d'adopter l'euro. Maastricht, c'est aussi le début de la citoyenneté européenne. Andra perd son passeport britannique bleu marine. Le nouveau est européen, Bordeaux est beaucoup plus petit.
It's like when we gave up our old passports, which were extraordinarily royal looking.
Quand on a dû abandonner nos passeports qui avaient une allure royale, qui respiraient la grandeur, qui était aussi celle de notre Commonwealth, là, j'ai ressenti qu'on nous bradait en nous imposant le passeport européen. Et maintenant, je me dis que est-ce qu'on va devoir à nouveau changer ? Parce que je me suis habituée à mon petit passeport Bordeaux.
Passport with a royal seal on, I hope not, because I'm quite used to my little red passport.
De nouveaux passeports, un nouveau tunnel qui passe sous la Manche. Les premiers trains Eurostar démarrent en 1994 sous les auspices de la reine à Coquel.
C'est la première fois dans l'histoire que les chefs d'État de France et de Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir dû prendre le bateau ni l'avion.
La jeune Britannique Lindsay vient faire ses études en France.
J'ai rencontré mon mari à Paris à ce moment-là. Et à l'époque, l'Eurostar était moins cher que maintenant. Il y avait des prix d'étudiants à 49 livres, je crois. Et donc, notre relation a pu continuer comme ça. On n'avait jamais besoin de se poser la question de s'il venait d'une façon permanente à Londres ou s'il venait pour un petit peu de temps et on repartira ailleurs, après peut-être bien à Paris ou bien ailleurs. En Europe, quand il est venu s'installer, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas besoin de documents, il n'y avait pas d'entretien, de home office, de ministère de l'Intérieur, il n'y avait rien. Il est venu s'installer et il avait le droit d'y être. Donc pour nous, c'était simple. Et je me souviens qu'il a dit à l'époque, je sais que je suis dans un immigrant de luxe.
On parle alors beaucoup des risques d'attentats dans le tunnel, ceux de l'armée républicaine irlandaise qui veut botter les Britanniques hors de l'Irlande du Nord. À Londres, à Manchester, à Belfast ou à Derry, on parle de « troubles », un bel euphémisme britannique, pour parler de plus de 30 années de terreur Andra londonienne.
It was pretty nervous making London, because London was under threat the whole time. Many, many letterboxes were sealed off.
À Londres, on vivait toujours sous la menace d'une attaque. Beaucoup de boîtes aux lettres avaient été scellées. On avait enlevé les poubelles pour éviter qu'on puisse y mettre une bombe dans les gares. C'était toujours très compliqué quand les enfants partaient à l'école le matin. J'avais toujours peur qu'il se passe quelque chose. Mais l'Europe nous a aidés à en sortir parce que les Irlandais ont voulu faire partie de l'Europe et grâce à cela, ils se sont développés.
I think that Europe helped that because the Irish wanted to be part of Europe as well. As a country, and they thrived on it.
Ce n'est qu'en 1998 qu'un accord de paix est enfin signé, un accord placé sous les auspices de l'Europe pour le professeur irlandais Kevin O'Rourke.
Avant 1973, il n'y avait pas eu une visite d'un Premier ministre britannique à Dublin, ce qui est quand même pas normal entre des voisins. Nous autres, dans la République, on revendiquait l'appartenance de l'Irlande du Nord à l'Irlande. Notre constitution disait que l'Irlande du Nord nous appartenait. Les Britanniques n'étaient pas d'accord. Donc il y avait vraiment un vrai désaccord territorial. Et bien sûr, à partir de la fin des années 60, il y avait des violences très importante. Mais après 73, les relations ont commencé à se normaliser. On se rencontrait régulièrement à Bruxelles. On finissait par découvrir que des fois, on avait des intérêts en commun, pas concernant l'agriculture, mais concernant d'autres dossiers. Et bien sûr, à partir des années 90, et avec la création du marché unique, alors à ce moment-là, il n'y avait plus besoin de contrôle à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, ce qui a créé le contexte où cet accord du Vendredi Saint de 98 a pu mettre fin à ce conflit qui avait duré 30 ans et coûté la vie à plus de 3 000 personnes.
L'Europe sans frontières permet de déverrouiller un vieux conflit. Tony Blair signe là un accord historique, mais c'est aussi à cette époque que naît le parti UKIP.
And now for something completely different.
UK Independence Party qui, dès 2004, engrange 16% des voix aux élections européennes.
I get off the aeroplane and I realize that I've just left the European Union. I have to say to you, you lucky people, well done Switzerland.
Son leader Nigel Farage est un tribun qui en appelle au Commonwealth ou même à la Suisse pour contrer Bruxelles. Robert Frank, historien.
Et là, il y a peut-être une différence entre le populisme britannique et le populisme continental. Les populistes sur le continent sont plutôt pour un repli national. Ils sont anti-mondialistes d'une certaine manière. C'est pas du tout la même chose du côté Grande-Bretagne. Ou plutôt, les dirigeants voulant le Brexit sont mondialistes. Global Britain, hein, GB, Global Britain, hein, une Grande-Bretagne ouverte sur le monde qui va pouvoir négocier avec l'Inde, avec les États-Unis, avec les pays du Commonwealth, des tarifs extrêmement bas. Donc le monde est un horizon beaucoup plus vaste, beaucoup plus ambitieux que cette mesquine Europe.
L'Europe va-t-elle sauver la Grèce de la crise financière? C'est la question du jour.
Les Britanniques eurosceptiques regardent loin. La crise grecque en 2010 leur offre alors une tragédie à leur mesure. Une troïka venue de Bruxelles qui met à genoux un peuple, la Grèce, berceau de la démocratie. Pour Steve, c'est bien la preuve que l'Europe, ça ne fonctionne pas.
I've got a lot of people.
Je connais beaucoup de gens qui disent que même si on n'a pas adopté l'euro, l'Europe fonctionne bien pour eux. Ils ont la belle vie et ils veulent rester dans l'Union européenne. Alors moi, je leur dis « Ok, je vais vous mettre dans une pièce avec des jeunes Grecs et je voudrais que vous leur expliquiez à quel point l'Union européenne fonctionne bien. Parce que 50% des jeunes Grecs n'ont pas de travail. »
Un Royaume-Uni solidaire de la Grèce, l'analyste Kevin O'Rourke relève le paradoxe.
Il y a là une certaine ironie, car on dit toujours qu'en Europe, il n'y a pas de masse. On n'est pas un seul peuple, on est 27, 28 peuples séparés. Mais il me semble que, c'était en 2015, je crois, les référendums, tout le monde était devant leur téléviseur ce soir-là pour attendre les résultats des votes grecs. Il me semble que tout le monde prenait parti, soit pour le Syriza, soit pour Mme Merkel. Tout le monde avait son point de vue là-dessus. Il y a certainement des Britanniques, des Anglais qui ont voté pour sortir de l'Europe, car ils étaient tellement dégoûtés par ce que les Troïkas avaient fait à la Grèce. Et il y a une ironie là-dedans, parce que ça veut dire que ces gens-là, ils étaient suffisamment européens, quelque part, pour être dégoûtés par ce qui se passait ailleurs en Europe. Mais la conclusion, c'était qu'il fallait sortir de l'Europe.
Menacé par la surenchère UKIP et par la droite de son parti, le 23 janvier 2013, le Premier ministre David Cameron promet un référendum.
That is why I am in favour of having a referendum. I believe in confronting this issue, shaping it, leading the debate, not simply hoping that a difficult situation will go away.
Une situation qui de difficile est devenu inextricable.
Royaume-Uni-Europe, je t'aime moi non plus depuis si longtemps. Un grand reportage de Frédéric Lebel, réalisation Pierre Chaffanjon.